Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, dans nos studios de la rue d'Assali, nous avons Svante qui nous revient. Et nous avons le plaisir d'accueillir le poète Vincent Calvé. Vincent, bonjour. Svante, bonjour.
Bonjour Christian.
Merci d'être venu en renfort, Svante, pour cette émission,
avec
puisque Svante connaît bien l'œuvre de Vincent Calvé. Alors Vincent Calvé, les auditeurs ne le découvrent pas, puisque nous avons eu le plaisir de parler déjà de son œuvre à Vincent Calvé, donc qui est un des poètes de notre région qui est riche en créateurs de poésie, il faut le dire. Elle est riche.
Oui,
il y a beaucoup de poètes dans cette région qui sont des poètes authentiques. Authentiques. Alors on va souvent les chercher ailleurs parce que c'est bien connu, l'herbe est toujours meilleure dans le pré du voisin. Mais il faut faire reconnaître aussi les poètes qui sont ici, qui sont dans notre Occitanie, qui ne sont pas toujours, comme nous l'avons fait la semaine dernière, des poètes occitans ou qui s'expriment dans la langue occitane, mais qui sont des poètes qui vivent en Occitanie et qui, dans leur poésie, consciemment ou inconsciemment, font passer aussi l'âme occitane, la culture occitane. Alors nous avons, donc dans cette richesse de créateurs ici en Occitanie, en particulier en région de Toulouse, nous avons Vincent Calvé. Alors Vincent Calvé, il est né en 1980. Il fait partie de cette génération, à 10 ans près, quoi, de Paulina Kamakine, que nous avons reçue la semaine dernière, et qui est aussi poète occitane, qui vit dans notre région. Et après des études de lettres, je crois, à l'université Toulouse-Mirail,
oui,
tu es passé le concours et tu es professeur des écoles spécialisées. Tu exerces où?
Dans un établissement spécialisé qui s'appelle le Sival Lestrade, à Ramonville-Saint-Agne.
À Ramonville-Saint-Agne.
Qui est un établissement de l'ASEI.
Ah oui.
Alors je voudrais préciser que je réside à Toulouse, mais j'ai grandi à Perpignan, donc un peu plus au sud. Mais c'est sensiblement la même région quand même.
Oui, encore que les Perpignanais ne diraient pas ça. Et il dirait, qu'est-ce que c'est ça? Non, pas du tout.
Nous sommes catalans, la poésie en catalan,
oui,
qu'on essaye de faire vivre à Perpignan.
Oui.
Voilà. Quand j'y retourne, j'assiste parfois à des lectures en catalan.
Quoi. Oui.
Voilà, donc je comprends un peu la poésie occitane, l'intérêt que ça peut susciter. Quoi. Voilà.
Alors, donc, tu es professeur, tu exerces donc à Ramonville-Saint-Agne, hein, c'est-à-dire juste dans la banlieue de Toulouse, dans cet établissement, effectivement, Ramonville-Saint-Agne, qui est connu aussi pour ses établissements pour les personnes handicapées, les jeunes handicapés.
Oui, alors, l'ASEI a beaucoup d'établissements en Midi-Pyrénées. Alors, moi, mon établissement accueille des jeunes qui sont malvoyants, aveugles, ou malentendants, sourds, ou des jeunes, des enfants ou des adolescents dysphasiques. Donc la dysphasie, c'est un retard de développement du langage oral. Et il y a souvent des troubles associés, hein, chez les déficients visuels. Il peut y avoir des handicaps plus lourds.
Ouais.
On a des autismes associés à la surdité. Il peut y avoir beaucoup de troubles associés, quoi.
Donc c'est un métier quand même très particulier d'enseigner. Ça demande...
Alors moi j'ai commencé assez tôt, puisque j'ai fait 3 ans dans le milieu ordinaire, dans l'Aveyron, et puis très vite j'ai demandé un établissement spécialisé, parce que moi ça me permettait en début de carrière de rester sur le même poste pendant plusieurs années.
Oui.
Quand on débute en tant qu'instit, souvent on a des postes provisoires pour un an.
Oui.
Et donc je me suis dit, tu vas demander un IME, comme ça dans la foulée tu passeras le diplôme, hein, le KPSH. Maintenant, c'est KPI, avant c'était KPSH, et ça te permettra de rester un peu plus d'un an sur le même poste. Voilà. Et finalement, ça m'a plu, l'enseignement spécialisé. Et donc, j'y suis resté. Donc, j'ai changé d'établissement plusieurs fois, mais je suis resté. Je ne suis pas retourné dans le milieu ordinaire. Et j'ai commencé assez vite à pratiquer la poésie avec mes élèves.
Voilà ce que j'allais dire. Donc, tu animes des ateliers d'écriture et tu as fait intervenir des poètes dans ta classe.
Oui, alors depuis maintenant une quinzaine d'années, oui, j'anime des ateliers d'écriture poétique dans ma classe. Donc, atelier d'écriture, atelier de lecture à voix haute. Et je fais intervenir des poètes tout au long de l'année. Et il y a eu une rencontre en fin d'année et des rencontres au fil de l'année. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir faire intervenir Svante Ström dans ma classe pour une initiation qui a beaucoup plu sur la langue, une initiation à la langue suédoise et à la poésie suédoise.
Oui, oui, deux, trois fois déjà, je pense. Hein.
Alors, des élèves de quel âge?
Alors, moi, ça peut aller de des enfants de 7 à 12 ans. Parce que, par exemple, j'ai un groupe. J'interviens, on m'a un peu transformé en intervenant poésie. Donc, le directeur de bassin, Mathieu Roy, m'a proposé il y a 2 ans, le directeur de bassin de l'ASI, de devenir une sorte d'intervenant. Donc, j'interviens en poésie sur plusieurs groupes. Donc, j'interviens à l'école de Southlong, station de métro Southlong.
Oui. Et c'est chez moi, j'habite à côté.
Voilà, donc sur école primaire. Donc là, ils ont entre 7 et 12 ans, deux classes. Et ensuite, j'interviens au PAP. Là, c'est au Cival Lestrade, en interne. Là, c'est les plus grands, dysphasiques toujours, mais entre 12 ans et 18 ans, 19 ans. Voilà, mais je fais aussi de la poésie en individuel ou en binôme avec des jeunes aveugles ou malvoyant.
Voilà. Alors tu écris et tu remportes déjà en 2005 le Grand Prix de la ville de Béziers pour ton livre Solitude des rivages. C'est publié à Encre et Lumière en 2006.
Oui, alors moi, dans le milieu de la poésie, moi je ne connaissais personne quand j'étais plus jeune. Donc je suis passé par des concours pour essayer de rencontrer des gens ou faire publier mes premiers poèmes. Donc j'avais participé vers l'âge de 20 ans deux fois au prix Arthur Rimbaud, qui était un prix organisé par le ministère de la jeunesse. Et je l'avais pas gagné, mais j'avais été dans la sélection. Et deux fois j'ai été publié dans une anthologie publiée par la Maison de la Poésie de Paris, en 2000 et 2001. Et donc, c'était mes premiers poèmes publiés. Voilà. Ensuite, il y a eu un trou de quelques années. Je m'étais un peu découragé. Et en 2005, un ami m'a conseillé de participer au Grand Prix de la ville de Béziers. Donc, j'ai envoyé un texte. Et là, j'ai eu de la chance parce que j'ai obtenu le prix. Et ça m'a permis de publier mon premier recueil. Parce que j'ai obtenu une somme d'argent avec ce prix. Et avec cette somme, j'étais chargé de trouver un éditeur et d'éditer ce livre qui avait gagné le prix, qui s'appelait Solitude des rivages. Et ça a été édité donc par les éditions Encre et Lumière de Jean-Claude Bernard, qui est basé dans le Gard. C'est un éditeur qui travaille en typo, qui fait des livres en typo. Voilà, donc j'étais content parce que c'est quand on voit son premier livre publié, ça fait toujours plaisir. Oui. Surtout que là, c'était un beau livre en typo. Donc j'ai pu choisir le papier de couverture, la couleur de l'encre. Oui. Voilà, c'était...
Alors en 2007, tu es lauréat du prix de la vocation de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet et du Printemps des Poètes pour La Haute Folie des Mers, qui est publié aux éditions Chêne.
Oui, alors le Grand Prix de la ville de Béziers m'a un peu redonné confiance, et je me suis remis à écrire. Et donc, 2 ans après, j'ai envoyé un texte. J'ai participé 2 fois de suite au prix de la vocation, parce que je cherchais sur Internet les différents prix auxquels, auxquels on pouvait participer. Et j'avais repéré ce prix de la vocation.
Sur manuscrit.
Qui s'est appris sur manuscrit. Oui, et donc deux années d'affilée, j'ai participé. La deuxième année, alors la première année, j'ai été dans les finalistes. Et je suis monté à Paris, ce qui m'a permis de rencontrer Pierre Auster, par exemple, Jean-Pierre Siméon. Mais au dernier moment, bon, je suis allé à la déclaration du prix, mais je ne l'ai pas eu. Donc, mais ça m'a permis de faire connaissance avec les gens qui organisaient le prix.
Oui.
Et notamment Pierre Auster, voilà. Et l'année d'après, donc j'ai reparticipé et cette fois-là, ils m'ont remis le prix. Voilà. Voilà.
Ensuite, donc, il y a une rencontre qui est une rencontre importante, me semble-t-il, celle avec Paul Sanda.
Oui, alors j'avais sorti donc deux recueils, donc le premier grâce au Grand Prix de la ville de Béziers. Et le deuxième a été publié chez Chênes grâce à l'obtention du prix de la vocation. Et j'ai pu m'appuyer sur ces deux premiers ouvrages pour me faire connaître d'autres éditeurs.
Voilà. Oui.
Voilà. Donc, un ami qui s'appelle Pierre Soletti, qui habite dans la région d'ailleurs, a fait passer, m'a proposé de lui donner un manuscrit pour le faire passer à Paul Sanda. Parce qu'il avait publié lui aussi un petit livre qui s'appelait Buildings, donc aux éditions Raphaël de Surtis, de Paul Sanda. Donc il a fait passer ce manuscrit qui s'appelait Coquillages limitrophes. Et j'ai reçu un coup de fil de Paul Sanda me disant qu'il allait le publier. Et donc ça a été, je suis allé le voir.
Dans
la foulée, à Cordes-sur-Ciel, j'ai fait connaissance avec lui. Le livre est sorti, et lors d'une autre visite que je lui ai faite avec un ami de l'époque qui s'appelait Cédric Le Penvel, on est allé le voir ensemble, et il nous a proposé, spontanément, de créer une revue. Donc, peu de temps après la sortie de Coquillage limitrophes, qui est sorti en 2009. Donc, il nous a proposé de créer une revue. Et donc, on a réfléchi à un titre, et je dois dire que le titre Mange au monde, le titre de la revue, c'est Cédric Le Penvel qui l'avait proposé à l'époque.
Ah oui, Cédric.
Donc, on a choisi ce titre pour la revue. Alors, il y a eu Mange au monde. Voilà.
Oui.
Il y a eu un débat par rapport au contenu. À l'époque, Paul Sanda, il aurait aimé que ça soit une revue qui mêle poésie et ésotérisme, mais Cédric Le Penvel n'était pas d'accord et moi j'étais mitigé. Donc finalement, après un débat, on a décidé que ça serait une revue de poésie, exclusivement de poésie. Mais cette revue poésie et ésotérisme, d'ailleurs, quelques années après, en 2020, il a pu réaliser son projet, Paul Sanda, puisqu'il a lancé une deuxième revue qui s'appelait Septième Sens, qui n'a fait que 2 numéros, mais qui là, pour le coup, on l'a lancé ensemble, pour le coup, mélangé poésie et ésotérisme. Voilà. Mais Mange-Monde, ça a été une revue de poésie. Alors Cédric Le Penvel, lui, il est resté que 2 numéros, et après, il est parti. Donc ensuite, pour de 2010 à 2020, j'ai dirigé cette revue avec Paul Sanda. Et on faisait le travail à peu près, à deux, quoi.
Voilà. Oui, oui.
Voilà. Et ça a été une belle aventure. Alors, c'était une revue qui se voulait ouverte à la diversité des courants poétiques. Et on ne voulait pas être la revue d'une chapelle, une chapelle poétique particulière. Et on a essayé de donner la parole dans des interviews, dans des anthologies, à des gens très variés.
Éclectiques.
Très éclectiques. Mais toujours des gens dont la poésie nous apparaissait importante.
Oui.
Donc, voilà. Et poésie étrangère également. Donc, voilà. Donc il y a eu 17 numéros et elle s'est arrêtée en 2020. Et pourquoi 17 numéros? C'est pour Paul Sanda, c'est une référence à Arcane 17, d'André Breton. Et quand il fait une revue, il fait toujours 17 numéros. Il avait fait une précédente revue dans les années 90 qui s'appelait Prix de peur, qui avait fait également 17 numéros.
Oui. Alors Paul Sanda, c'est l'ésotérisme, la poésie, l'ésotérisme, le surréalisme.
Oui.
Le surréalisme est quand même dans l'ésotérisme, la religion aussi. Puisque,
oui, alors il y a plusieurs dimensions.
Oui.
Alors le lieu où il habite, c'est le siège de la maison des surréalistes de Cordes-sur-Ciel. Donc c'est très marqué. Paul Sanda, quand on pense à lui, c'est très marqué par le surréalisme.
Alors, grand poète, grand éditeur de notre région, avec les éditions Raphaël de Surtis. Et, si tu le veux bien, nous ferons une émission. J'ai pas mal d'œuvres de Paul Sanda. Et je serais très heureux d'avoir quelqu'un comme toi à côté pour pouvoir en parler
avec plaisir.
Beaucoup de compétences.
Alors Paul, c'est un sujet très vaste puisqu'il y a Paul le poète, il y a Paul le performeur, il y a Paul l'éditeur, il y a Paul l'ésotériste, Paul l'alchimiste, Paul le dirigeant religieux. Il y a de quoi
s'y perdre.
Voilà.
Très bien. Bon. Alors, ensuite, aujourd'hui, tu es traduit quand même en espagnol, en arabe, en russe, en turc, et tu as participé...
En catalan,
oui, ça c'est... Effectivement, c'est chez toi. Et tu as participé à de nombreux festivals, dont les Voix Vives de Sète.
Oui, deux fois.
Gratte au Monde, c'est à Grenoble. C'est ma foire. C'est
en Bretagne,
à Bretagne, voilà,
c'est le festival de Bruno Jeunesse et Isabelle Moigne.
Oui. Et qui sont actifs d'ailleurs, à Quimperlé.
Ils sont très actifs,
à Quimperlé,
dans la région Bretagne.
Paul Sanda y va aussi.
Oui, il est président de la maison de poésie de Quimperlé.
Voilà, c'est ça, j'ai des nouvelles. Paul Sanda part par Quimperlé.
Ces dernières années, ce festival de poésie est devenu le principal festival de poésie en Bretagne.
Oui.
En termes de fréquentation.
Oui.
Et c'est un grand ami, Bruno Jeunesse et Isabelle sont des amis que j'ai rencontrés d'ailleurs par l'intermédiaire de Paul Sanda, qui les avait rencontrés quelques années avant.
Alors, il y a à Cordes-sur-Ciel un festival, je ne sais pas si tu le connais, Svant, Festival international de poésie actuelle.
Je suis allé une fois, j'ai assisté en tant que public à une partie de ce festival il y a 3-4 ans.
Quelle période?
Oh, c'était en fin d'été, il me semble.
C'est un festival qui n'existe plus. C'est-à-dire quand la mairie a changé, il y a eu un changement d'équipe municipale. Le nouvel adjoint à la culture n'était pas aussi favorable à la culture que le précédent. Et donc, le festival, il n'a plus les subventions et donc il n'a pas pu continuer le festival.
D'accord.
Mais il a dû faire une dizaine de sessions. D'accord. Et je me rappelle, Svant, l'année où tu es venu. À l'époque, tu essayais de faire un peu le tour de tout ce qui se faisait autour de Toulouse en matière de poésie.
Ça devait être en 2018-19, par là, effectivement.
Donc, tu venais faire un petit tour à Cordes pour voir un peu...
J'avais une amie aussi franco-suédoise qui s'est produite dans ce festival, et c'était pour ça que j'étais venu, d'ailleurs.
C'était Lembeloc.
Non, Marie-Christine Archambault.
C'était Archambault, d'accord. Alors, elle est publiée chez Raphaël de Surtis.
Donc, tu as participé aussi aux journées poétiques Nazım Hikmet.
Oui, l'année dernière.
À Istanbul.
En septembre 2023, à Istanbul. C'est grâce à Sylvain Kavaïès, qui est un traducteur du turc, traduit du turc, avec qui j'avais sympathisé au Festival de Sète, où j'étais invité l'été dernier. Et donc, dans la foulée, il m'a fait inviter à Istanbul. C'est un festival organisé par un poète turc qui est quand même connu, qui s'appelle Haydar Ergulen. Et cette année-là, ils avaient décidé, le pays invité, c'était la France.
D'accord. Voilà. Très bien. Alors, en 2018, et on parlait Svant, donc de cette année, 2018, tu es, Vincent Calvé, tu es lauréat du prix Marc Sabatier Lévêque.
Oui.
Pour Continuum amoureux, toujours publié aux éditions Raphaël de Surtis. qui était publié en 2011, donc 7 ans après, si j'ai bien compris.
Et donc oui, il m'a remis le prix Marc Sabatier Lévêque en 2018 pour Continuum amoureux, qui était paru en 2011, et qui était mon livre chez Raphaël de Surtis, qui s'était le mieux vendu. Alors, le prix Marc Sabatier Lévêque, c'est le prix qui était remis lors du festival de poésie actuelle de Cordes-sur-Ciel. Voilà, et c'est un prix pour lequel il n'y a qu'un seul membre du jury, et c'est Paul Sonda.
D'accord. Alors, tu coordonnes aussi une anthologie dont on a pas mal parlé, c'est Requiem pour Gaza, c'était en 2018, avec une préface d'Adonis. Hein,
oui, c'était en 2018.
Avec une vingtaine de poètes, bien sûr. En 2019, tu deviens rédacteur en chef de la revue Sémaphore. Donc c'est Bruno Geneste qui te demande ça.
Alors oui, je suis devenu ami avec Bruno par l'intermédiaire de Paul, puisque Bruno fréquentait le festival de poésie actuelle de Cordes-sur-Ciel. Et très vite, dès 2011, je suis devenu ami avec Bruno Geneste et sa femme Isabelle Moigne. Et il m'a invité plusieurs fois à son festival en Bretagne, à Quimperlé. Et donc en 2020, il était un peu débordé de travail pour son festival. Et il y avait une revue associée au festival qui s'appelait la revue Sémaphore. Et donc il m'a demandé si je pouvais m'en occuper, voilà, pour se décharger de ce travail-là. Et donc j'ai dirigé 4-5 numéros de la revue Sémaphore, et qui s'est arrêté également faute de subvention, parce qu'il y a eu une baisse de subvention de la région Bretagne, ou de la mairie, je ne sais plus. Et donc ce qui a été supprimé en premier, c'était la revue. J'ai quand même fait 4-5 numéros de Sémaphore.
Alors Vincent, tu es également dessinateur. Hein, donc tu écris,
oui, je dessine depuis tout petit.
Et donc ce titre-là, tu t'intéresses bien sûr au livre d'artiste.
Oui.
Et tu as même réalisé des expositions de tes œuvres, des pastels, des fusains, et tu as illustré certains de tes recueils.
Oui, les recueils parus chez Raphaël de Surtis sont illustrés par moi. J'ai réalisé les illustrations. Oui. Voilà.
Alors tu lances encore une revue, Septième Sens.
Voilà,
revue de poésie, d'ésotérisme et de philosophie,
elle a été
qui succède donc à Mangemonde, c'est après Mangemonde.
Alors donc en 2020, il décide d'arrêter Mangemonde, d'arrêter Mangemonde, donc à 17 numéros, comme c'était prévu. Et Paul donc me propose de lancer une nouvelle revue, que j'ai pas amenée là d'ailleurs, qui s'appellera Septième Sens, et qui sera une revue assez luxueuse, tout en couleurs, et qui mélange poésie, mais plutôt une poésie liée à la spiritualité. Donc on a fait des anthologies de poètes juifs, par exemple, ou des interviews de poètes liés à la spiritualité. Voilà. Et des articles d'ésotérisme, de spiritualité, de philosophie. Et la revue, on a fait deux numéros. Voilà, et elle s'est arrêtée également en 2021. Je pense parce que on avait perdu des abonnés. Enfin, j'ai jamais su la raison exacte, mais je pense que Paul, à ce moment-là, il avait quelques difficultés peut-être financières, et donc il a choisi de ne pas continuer la revue, qui coûtait assez cher puisqu'elle était en couleur. Et je pense qu'on avait perdu, entre Mangemonde et cette revue, on avait dû perdre quand même les abonnés. Voilà. Donc il n'y avait peut-être pas suffisamment d'abonnés pour qu'elle soit viable, la revue. Quoi.
Oui. Alors Vincent, toute cette période, tu écris beaucoup, tu publies dans beaucoup de revues, Souffle, la revue Souffle, donc.
Une fois dans Souffle.
Une fois. Oui. Test, Bacchanal.
Oui, j'ai publié plusieurs fois dans Bacchanal. Oui. Je les connais bien, les gens de Grenoble. Oui. Ils font un joli travail à la maison Poésie Rhône-Alpes.
En 2022, tu fais paraître les fameuses Six Solitudes.
Oui.
J'ai eu le plaisir de rendre compte ici, à cette radio, et donc, de cet ouvrage qui m'a beaucoup plu.
Merci.
Lequel donc j'ai consacré une émission aux éditions de La Rumeur Libre, hein, et qui se trouve dans la sélection de plusieurs prix nationaux. Et oui. En 2023, tu as été invité de nouveau au festival Voix Vive de Sète. Oui. Et là, c'est là que tu rencontres Sylvain Cavaillès.
Oui.
Sylvain Cavaillès, dont tu as parlé, je crois,
oui,
qui va te traduire en turc.
Oui.
Et donc, il va t'inviter à ces fameuses journées dont nous avons parlé
Istanbul,
tout à l'heure, les journées poétiques de Nazım Hikmet.
Je devrais être prochainement dans une anthologie en Turquie.
Ah, très bien, très bien. Alors, on va parler quand même de tes publications. La première publication dont on n'a rien dit, et par laquelle, moi, j'ai appris donc à connaître Vincent Calvé, c'est De cendres et d'écume, une ville, publiée aux éditions La Rumeur Libre.
Oui.
Un gros livre, hein, aussi, très belle publication.
Alors, ce livre, il est paru en 2016, et alors là, c'est la rencontre avec une autre personne, en 2015-2016, qui est l'éditeur de La Rumeur Libre, qui s'appelle Andrea Iacovella, et sa femme, Dominique Iacovella. Alors, comment je les ai rencontrés? Bientôt, là, ce jeudi, la 24, nous allons rendre hommage à Nicole Drano, qui est décédée il y a un an. Donc, je vais me rendre à Frontignan, et avec un certain nombre de poètes qui l'ont bien connue, on va lui rendre hommage. Et je dois dire que c'est grâce à elle et à son mari, Georges Drano, que j'ai pu rencontrer Andrea Iacovella et Dominique Iacovella, puisque Nicole et Georges m'avaient invité à leur rencontre à Frontignan, qui s'appelait Humanisme et Culture. Donc ils m'avaient invité en tant que poète, sur suggestion de Pierre Auster. Et j'étais invité en même temps qu'un autre poète, donc il venait là en tant que poète, qui était Andrea Iacovella. Et donc j'ai passé un week-end
en compagnie d'Andrea Iacovella
et de sa femme.
Qui dirige La Rumeur Libre.
Voilà, qui dirige les éditions La Rumeur Libre. Ensuite, je l'ai fréquenté au Festival de l'Odève, au Festival de Sète. Je le croisais, j'ai fait une interview de lui pour ma revue Mange-Monde. Et dans la foulée, il m'a proposé de lui envoyer un manuscrit.
Voilà.
Moi, je n'avais pas envoyé spontanément, mais il m'a dit « Mais pourquoi tu ne m'envoies pas quelque chose ?» Et donc voilà, j'avais ce manuscrit qui était trop gros, trop long pour les éditions du Petit Pois. Et donc, mais c'était adapté pour les éditions La Rumeur Libre.
Voilà. Alors, si tu veux bien, parce qu'on n'a pas, on parle beaucoup, mais on n'a toujours pas donné à entendre ta voix. Je voudrais que tu lises donc de Vincent Calvé, De cendres et d'écume, une ville. Ce poème Face Nord,
d'accord,
qui est dédié à Julien Blaine.
Julien Blaine.
Voilà, Julien Blaine qui m'a envoyé récemment ses dernières publications, que l'on salue ici. Et nous aurons bientôt le plaisir de faire entendre aussi sa voix. Est-ce que tu peux nous lire ça?
Alors, Julien Blaine, je vais dédier ce poème parce que c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées dans le milieu de la poésie, avec Pierre Soletti. Voilà, et André Robert, c'est plutôt ces gens-là, des avant-gardes, qui ont été les premières personnes que j'ai fréquentées. Voilà. Avant de rencontrer Paul Sanda, voilà, et Julien Blaine, je le revois de temps en temps quand il passe chez André Robert à Y-sur-Tête. Voilà, j'ai toujours plaisir à le revoir, et à suivre son travail. Je travaille parfois avec mes élèves sur des CD ou des DVD. De Julien Blaine, ça fonctionne toujours très bien avec les élèves en situation de handicap. Donc je vais lire ce poème qui s'appelle « Face Nord » à Julien Blaine. Il faut remonter à la source de la parole, s'arracher au plancher des vaches, aux ornières, à la pesanteur de la race. Il faut dire ce qui doit être dit malgré le poids des idoles. Il faut s'extraire de la glaise, de la boue des villes, des plaies vives, naître à un nouveau rivage. Malgré la douleur des hommes, malgré les fausses morales des intégristes, il faut changer de peau, marcher dans l'écorchure, franchir la haie de l'intelligence. Regardez où vont les caravelles. Il faut remonter le fleuve dans les méandres de l'imagination. Sur la berge, ramasser des galets et faire des ricochets, les pieds de mousse, la main caressant les feuillages, et emprunter les sentiers qui cheminent au milieu des sapins en pente raide. Ne pas craindre la fatigue ni la sueur, en rupture de banc, laisser ses masques au bord du chemin, avancer les pieds nus, le cœur large, regard lointain. Le sommeil des cimes qui nous regarde, apercevoir les genêts, fusées d'or le long du torrent qui dévale les pentes et brise le silence, emportant dans ses flots les fausses promesses, les faux espoirs. Comme les truites qui remontent le courant, les hommes résistent. Au ciel, on aperçoit l'ombre d'un aigle, la lumière qui érige ses cathédrales, et le cri des marmottes dans les chaos. On avance de plus en plus nu, les pieds écorchés aux cailloux. On ne perd pas de vue le sommet dans l'ascension, un ascète. Les éboulis instables ne nous freinent que momentanément. La fatigue ne nous terrasse pas. Nous sommes dans l'attente d'une lueur. Et l'œil ne quitte pas ses orbites. Le cerveau reste à sa place. L'esprit a deux lacets d'avance et nous entraîne dans sa spirale. On quitte les forêts pour les alpages. Le torrent n'est plus qu'un filet d'eau fraîche, la glace, les névés. On pose une pierre au cairn pour assurer l'espace de notre bonne volonté. Quatre à quatre franchir les marches de l'escalier, la face nord de la langue pour atteindre le sommet. Rester rivé à cette certitude d'être sur le bon chemin, celui qui n'est pas donné, pas facile, abrupt. Et pareil aux 12 travaux d'Hercule. Monter, monter de plus en plus léger malgré la fatigue, dans le dépouillement, abandonner ses affaires, ses angoisses, ses fausses monnaies, ses illusions, ses servitudes, ses certitudes, et dans le vent des cimes, respirer, être enfin quelqu'un d'utile dans l'humilité de la parole qui ratiocine, qui fait ce qu'elle peut avec l'outil de la grammaire. Surtout, renoncer à toute forme de domination. Plus on s'élève, plus on s'allège du poids de nos corps et de l'imbécilité sociale. Les tarés, on les laisse à la porte de la montagne, loin des yeux, qui s'ouvrent de plus en plus tandis que se rapprochent les dernières roches, le dernier verrou, avant la trouée finale, le vertige. Enfin, au sommet, on est debout, on regarde le ciel sans obstacle, et les chênes, la plaine qui s'étale, et la mer au loin, qui brille maintenant de tout son éclat comme une porte battante.
Alors on voit que dans ce que tu écris, tu es excessivement prolixe. Hein? Je crois qu'il est vraiment prolixe.
Oui, alors ça dépend des livres, parce qu'il y a certains livres où j'ai utilisé des formes plus longues.
Oui, bien sûr.
D'autres où j'ai utilisé des formes plus courtes.
Oui. Mais on sent qu'il y a un réservoir derrière. Hein.
C'est vrai, j'aime, la forme longue. Oui. J'aime la forme longue.
Alors je veux dire, si tu le permets, donc de Six Solitudes, ceci. Les mots me viennent dans un continuum de pensées. Ma pensée est solaire dans ta propre pensée. Je rejoins les marges de la mer, les franges immarcessibles du ciel. Je suis content d'utiliser ma langue, elle qui vient de loin, de l'horizon des signes, de mon enfance la plus chère, de ton amour, de ta lumière. Les mots, je les reconnais comme des signes, aux possibilités combinatoires limitées, mais suffisantes pour effleurer la rose. Je sais bien qu'ils sont peu de choses, qui ne remplacent pas les choses, qui ne sont qu'un outil que la terre nous a donné, la nation fraternelle, mon père et ma mère, tous les poètes et les artistes du passé. Les mots s'accumulent sur la grève, comme des coquillages ou des galets rendus brillants par l'eau de mer. Il me suffit de tendre l'oreille pour entendre, il me suffit de les ramasser et de les agencer dans un certain ordre pour comprendre. Les signes peuvent aussi être comme ce pétrole qui se répand hors de l'Erika et qui souille la côte et transforme les oiseaux en fantômes. Ils peuvent être comme ces rejets des usines, comme ces déchets jetés par les hommes qui finissent par constituer un continent de matière plastique ou fécale, comme les gaz qui trouent la couche d'ozone et fondent les glaces de l'Arctique. Les signes sont aussi comme les canons de la guerre, dont nous entendons encore les chocs ici, comme des armes létales, des bombes chimiques, des champignons nucléaires, quand des hommes-machines les utilisent pour répandre le mal et la mort
la honte et le mépris, la cruauté qui sort de leur bouche et comme un couteau déchirant les voiles des navires et planté dans la chair des innocents. Je sais que tu souffres de ce qu'en font les hommes. Tu veux rendre aux signes et aux mots leur vocation première, qui est celle de libérer, de rejoindre la paix des brisants, la quiétude des barques de Collioure et de Cythère. Que les signes soient comme des flammes qui illuminent la nuit des cierges dans une église grecque peinte à la chaux comme des végétations nouvelles dans les collines environnantes comme une baie aux jambes offertes. C'est en te connaissant, en te chérissant, qu'ils prendront en eux ta propre lumière et se déchargeront d'un poids de matière et d'ombre qui les rend inefficaces. C'est en te baisant sur les lèvres, ô matière naturelle, belle, ô réelle.
Merci pour ta lecture.
Très très beau texte.
À tes pieds.
Donc, il y a là ce côté, je disais prolixe, c'est-à-dire une écriture prolifique.
Ah oui, alors pour le coup, Six Solitudes, donc c'est la, oui, la forme longue que j'ai poussée, oui, vraiment à, oui, l'extrême.
J'ai beaucoup aimé, moi, justement, ouais, cette. C'est parce qu'il y a une grande richesse dans l'expression, dans les images, dans les métaphores. Mm-hmm. Tu dis tellement de choses. Mm-hmm.
Peut-être que ce flux continu, je l'ai appris dans la lecture des surréalistes, donc l'écriture automatique. L'autre est Amont, probablement, la lecture des chants de Maldoror. Et naturellement, je suis plutôt quelqu'un qui va avoir une écriture du flux et qui va s'exprimer dans une forme très longue avec un foisonnement d'images, un peu à la manière de ce que faisait aussi un poète que j'ai beaucoup aimé, c'est Aimé Césaire.
Ah oui.
Ce flot d'images. Voilà.
Oui.
Et on laisse les images venir. Les sons arrivent par l'inconscient et ces sons appellent des images, donc voilà, des mots. Et ces images elles-mêmes sont d'autres sons qui vont appeler d'autres images. Et
ainsi de suite.
C'est une chaîne continue de signifiants qui se auto-produit.
Oui.
Voilà. Oui. Moi, c'est ma manière d'aborder l'écriture.
Oui. Voilà. Il y a, en lisant ce texte, j'avais une idée derrière la tête, c'est de te poser cette question à partir d'une phrase d'Edmond Jabès.
Oui, d'accord.
Edmond Jabès, il dit « Écrire n'est pas un miroir. Écrire, c'est affronter un visage inconnu. » Alors, tu as parlé tout à l'heure en disant que il y a là, tu es dans la démarche surréaliste un peu.
Oui.
Hein, c'est-à-dire, bon, tu as parlé de l'inconscient. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Tu as parlé de l'inconscient. Donc, c'est aussi dans ce texte-là qui procède de ce continuum de la pensée que l'on laisse vagabonder, mais en lui donnant, parce que ce n'est pas un vagabondage, comment dirais-je, totalement sans aucune retenue. Mmh. Il y a quand même la fabrication par la langue, tout quelque chose qui est construit, et dont l'inconscient, effectivement, est derrière, mais on sent que la raison, quand même, rappelle cet inconscient et le rattache à quelque chose.
Mmh. Voilà. Oui, alors dans ma manière d'écrire, c'est ce qui se passe. Mais
est-ce que tu affrontes là un visage inconnu
dans Six Solitudes, on peut voir. Alors il y a six solitudes, donc six parties dans le texte, et on peut voir une progression en fait. Si on regarde un peu ce que ça dessine comme récit, donc on va passer des premières solitudes, c'est la solitude subie, voilà, donc la souffrance. La solitude dans le monde et dans les mots. Ensuite, il y a la rencontre avec il y a l'amour, le visage de la femme. Ensuite, c'est le visage de l'autre, la rencontre avec le visage de l'autre. sur un rivage désert. Ça, c'est la, à partir de la troisième solitude. Et puis, on va évoluer vers ce visage de l'autre. Ça va devenir le visage de, progressivement de la Vierge, du Christ, et puis finalement le visage de Dieu. Quoi. Voilà. Et je pense que dans toutes les poésies, derrière cette quête de, d'un inconnu, d'un visage inconnu, c'est le questionnement de Dieu, en fait, de ce visage de Dieu. Voilà. Même chez les poètes athées. Quoi.
Oui. Est-ce que là, il n'y a pas l'influence aussi de Paul Sanda?
Alors, le, oui, non, probablement.
Oui.
Paul il m'a aidé à me réconcilier avec mon identité chrétienne. Ah. Parce que moi, je viens d'une famille où on est partagé entre la foi catholique et un certain agnosticisme. J'avais un grand-père athée, mon père est athée, et mon grand-oncle, c'était un voltairien, prof de lettres classiques, mais très voltairien. Donc on a une partie de la famille qui est très voltairienne, très anti-religieuse. Et il y a quand même eu ma grand-mère, très croyante, et mon arrière-grand-père qui était déjà un écrivain régional à Millau, oui, et qui était très croyant. Oui. Et donc on a ce côté, j'ai la double filiation. Et alors j'ai le parcours habituel des catholiques, donc j'ai fait ma communion, confirmation, jusqu'au collège à peu près. Je suis allé à la messe le samedi, pour faire plaisir à ma grand-mère. Mon père nous amenait à la messe pour faire plaisir à ma grand-mère. Et après j'ai eu ma période de révolte contre, à l'adolescence, vers 17-18 ans, j'ai plus voulu aller à la messe. Voilà, j'ai eu ma période un peu voltairienne, on va dire, de rejet de la religion. Et j'y suis revenu un peu grâce à Paul Sanda, en fait, qui m'a montré toute la richesse et les beautés des racines chrétiennes, en quelque sorte, à travers le gnosticisme. Donc je suis revenu à la foi catholique par le détour de... du gnosticisme et de l'ésotérisme. Voilà. Et maintenant, je suis assez apaisé et réconcilié avec mes origines. Et je suis content d'avoir cette double culture. Et d'ailleurs, on peut le retrouver chez les gnostiques, c'est-à-dire à la fois une culture de l'esprit critique et un attachement à la figure du Christ. Quoi. Oui. Voilà.
C'est René Char qui a dit « Les hommes d'aujourd'hui veulent que le poème soit à l'image de leur vie, faite de si peu d'égards, de si peu d'espace et brûlée d'intolérance. »
Oui, c'est tout à fait exact.
Je crois qu'au moment où on parle, c'est une vérité toujours d'actualité.
Oui, oui, hein? Tout à fait, oui.
Et est-ce que ta démarche poétique, surtout ce que tu viens de nous dire là sur ta démarche spirituelle, hein, c'est important de parler aussi d'une démarche spirituelle chez les poètes. Est-ce que cette démarche-là, justement, va faire de toi quelqu'un qui va vivre, non pas avec si peu d'égards, mais au contraire, avec beaucoup d'égards, avec de l'espace? Et avec la tolérance.
Je pense.
Est-ce que ta création poétique, ton œuvre de poète, le fait de ton écriture, va aller dans ce sens-là, c'est-à-dire va corriger un peu ce que dit René Char. Est-ce que ça peut?
Est-ce que tu peux préciser ta pensée?
Mais est-ce que le fait d'être un créateur en poésie, de composer des poèmes, oui, donc de dire comment tu vois le monde, comment tu conçois le monde, comment tu vis le monde, est-ce que ça va faire de toi un homme qui ne va pas vouloir que le poème soit à l'image de ta vie, mais à l'image de ce que tu voudrais créer par ta poésie, c'est-à-dire, à mon avis, l'objet de la poésie, c'est aussi un objet prophétique.
Oui, hein, oui.
C'est-à-dire de dire il existe un monde qui est à votre portée, à condition que vous en donniez la peine, et ce monde-là, moi, dans le poème, je vais vous dire ce qu'il est.
Oui, c'est exact. Mais j'imagine que quand on a une pratique artistique, qu'on écrit de la poésie, qu'on ne se satisfait pas du monde tel qu'il est, tel qu'il va, et qu'on voudrait le sublimer en quelque sorte. Bon, c'est la leçon des surréalistes, que cette réalité qu'on vit au quotidien, on l'amène à plus de réalité. C'est-à-dire la surréalité, c'est plus de réalité. Donc une sorte de amener, c'est pas fuir la réalité dans des arrière-mondes. La poésie n'est pas un arrière-monde, mais c'est ce qui permet de transformer le réel en réel augmenté, enfin, en surréalité. Oui. La réalité devient une surréalité. Voilà. Donc une réalité sublimée par, oui, par cette transcendance, oui, poétique.
Oui. Une réalité qui est là, mais que l'on ne voit pas. Mm-hmm. Et qu'il faut aller chercher justement par le, mm-hmm, par le poème, voilà, par le langage.
André Breton, il parle de, oui, signe ascendant.
Oui.
Voilà, voilà. La poésie ne vaut le coup que si elle sublime notre quotidien et notre vécu. Si elle n'est, comme le disait Jean-Pierre Siméon la semaine, oui, dernière lors, oui, de cette rencontre, si elle n'est qu'un ornement,
oui, oui, bien sûr,
elle ne sert pas, oui, à grand-chose,
oui,
la poésie.
Oui, oui, oui. Voilà.
Elle n'est pas un ornement gratuit.
Oui, oui. Oui. Il faut qu'elle transforme le monde.
Voilà.
De façon ou d'une autre.
Il y a une filiation de Rimbaud jusqu'au surréalisme. Oui. Et puis ça passe chez les néo-surréalistes comme Paul Sanda. Alors tu as cité Paul Sanda comme la personne qui m'a influencé, mais il y a aussi Pierre Auster qui est, ah, un,
oui,
poète du courant catholique,
oui, oui,
de la poésie spirituelle,
oui. Oui,
que j'ai rencontré à l'occasion du prix de la vocation, qui m'avait beaucoup soutenu, oui, à l'époque pour que j'obtienne le prix.
Oui.
Et j'ai eu un dialogue avec lui par lettre. Et lui aussi, il a joué un rôle dans ma réorientation vers, oui, la dimension un peu plus spirituelle.
Voilà. C'est un point important, hein, Pierre Auster. Mmh. On en parle plus maintenant, plus trop.
Mmh.
C'est dommage, mais, mmh, oui, je me souviens d'avoir fait une grande émission sur Pierre Auster.
Et alors, Paul Sanda, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il prend tout l'héritage du surréalisme, mais dans sa dimension ésotérique, c'est-à-dire ce n'est pas le surréalisme athée,
oui,
et très anticlérical, très anti-flic, anti-flic de Benjamin Perret ou de certains, oui, oui, néo-surréalistes, oui, actuels. Oui. Mais c'est le surréalisme de l'après-guerre et l'héritage de Sarah Alexandrian, du breton spiritualiste.
Oui, oui.
Donc un surréalisme qui ne rejette pas la religion, voilà, et la spiritualité. Donc moi je me sens bien plutôt dans ce surréalisme-là, plutôt que dans un surréalisme très anti-curé, oui, oui, anti-flic, oui, 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 anti...
Oui, voilà. D'Éluard par exemple, quand il dit, c'est entendu, je vais le règne des bourgeois, des...
Oui, ou Benjamin Perret qui est très anticuré. Voilà. Ouais. Ça, c'est un peu le folklore du surréalisme, oui, d'une certaine époque.
Oui,
quoi.
Tout à fait.
Maintenant, c'est un peu fini tout,
oui,
ça, donc,
oui,
il faudrait,
oui,
passer à autre chose. Quoi.
Oui.
On a assez bouffé du curé dans le milieu poétique.
Voilà. Un poète surréaliste qui est malheureusement mal connu ici à Toulouse, qui est Jean-Pierre Lassalle.
Oui, je le connais, je l'ai rencontré, je l'avais, oui, interviewé pour Mange Monde. Oui, oui.
Et qui justement s'inscrit dans cette dimension,
oui, voilà,
du surréalisme dans de grandes spiritualités, hein, et ésotérique.
Oui, oui, lui, il est aussi, voilà, dans l'héritage de Sarah, oui, Alexandrian.
Voilà.
D'ailleurs, il a des liens, il a toujours eu des liens avec Paul Sanda.
Oui, oui.
Par rapport à et sa poésie d'ailleurs. La poésie de Jean-Pierre Lassalle, qui n'est pas très connue.
Oui, difficile.
Elle est difficile, mais elle s'inscrit dans ce courant.
Oui, tout à fait.
Du,
oui,
surréalisme, oui,
oui,
spiritualiste,
oui,
et,
oui,
ésotériste. Je crois, oui, qu'il est aussi franc-maçon.
Oui.
Régulièrement, il fait des conférences dans des réunions franc-maçonnes. Ça, c'est...
Oui.
Voilà.
On va le saluer.
Alors, je ne l'ai pas vu depuis quelques années. Je ne sais pas ce qu'il devient, d'ailleurs.
Oui. Il est malade.
Il est malade. Ouais. La dernière fois que je l'ai vu, c'était une réunion des conférences de la franc-maçonnerie vers,
oui,
la médiathèque cabaniste. Je suis allé le voir. Il donnait une conférence, oui, oui, sur la statue de la liberté, la signification ésotérique de la statue,
ah,
de la liberté.
Ça va.
Et je l'ai eu comme prof, en fait.
Ah, oui, oui, il était professeur au Mirail. Donc
je l'ai eu comme prof à l'université du Mirail.
Oui, oui, oui.
Il nous faisait un cours de lexicologie.
Oui.
Et alors, il le faisait à partir des poètes.
Oui, oui, oui.
On n'a pas, oui, fait beaucoup de lexicologie, Mais il nous a beaucoup lu les poètes, l'autre Clermont. Voilà.
Ouais. Ah, c'est très bien. Écoute, je suis ravi que tu connaisses Jean-Pierre Lassalle, parce que c'est un grand poète surréaliste quand même de Toulouse.
Oui, oui. Ouais. Bon, c'est un témoin du surréalisme. Moi, quand je l'ai interviewé,
il a connu le Breton en 1959, et il a fait, je crois, l'inventaire même de la bibliothèque de Benjamin Perret.
Ah oui. Ah, oui.
C'est le Breton qui avait confié ça.
D'accord.
Nous allons finir, Vincent, par un texte. Qu'est-ce que tu veux choisir?
Alors, peut-être, je vais prendre un texte dans mon dernier recueil qui est paru chez Raphaël de Surtis, qui s'appelle Ensauvagement, que j'ai illustré.
Nous en avons parlé.
Et il y a une préface d'un jeune poète qui s'appelle Grégory Rateau, qui est un jeune poète de la jeune génération, qui est très prometteur. Alors, je vais lire un texte qui est un peu étonnant. Que j'ai lu lors d'une dernière réunion avec Svante et qui a surpris les gens. Donc, là, je le cherche.
Alors, il s'agit de Ensauvagement de Vincent Calvé, préface de Grégory Rateau, chez Raphaël de Surtis.
Non, mais c'est pas celui-là. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je suis un peu long.
Pendant cette période-là, dans l'attente, je peux dire que j'ai lu plusieurs livres de Vincent. Et donc, tu vas commencer, mais tout simplement pour te faire le compliment, d'une manière générale, pour la maestria de ton écriture, même si, comme j'ai pu te dire, j'adhère pas forcément à tout ce que tu écris, mais j'admire la maîtrise.
Merci, Svante. Ça va faire du bien aux relations entre la Suède et la France.
Voilà.
Alors le titre du poème, c'est « Lettre à la femme aimée ». Quel beau squelette vous avez là, chère amie, je vous trouve charmante. Votre mâchoire m'évoque nos grands ancêtres homo sapiens. Oh, délicieuse charnière. Quelle belle démarche vous deviez avoir dans les savanes, parmi les rhinocéros et les dents de sabre. Et quelle démarche charmante vous conserviez encore quand je vous regardais sortir du métro, si pressé, tous les soirs à 17h, quand les grands fauves allaient boire aux flaques. Que vous me sembliez triste parfois, quand je regardais votre crâne briller dans les vitrines, et que j'aimais votre odeur de chloroforme et votre talon aiguille qui volait au-dessus des crottes dans ce Paris d'avant le déluge. Ô chérie, que j'adore toujours tes combats titanesques contre le kraken monstrueux ou le stupide Triceratops, que j'aime à te baiser encore entre les yeux avec la douceur d'un enfant. Et je cherche par les rues et derrière les vitres du métro aérien ces images de volcans et de fougères arborescentes. Je cherche un état antérieur qui me ramènerait à toi et aux premiers poissons qui eurent l'idée saugrenue de prendre le soleil sur les berges entre les races et les espèces bouillonnantes.
Donc c'était Lettre à la femme aimée. Donc on a vu aussi cette luxuriance aussi de la langue de Vincent Calvé.
Voilà. Alors, la femme aimée, elle est très ancienne et très contemporaine en même temps, manifestement.
C'est Lucie, probablement.
Voilà.
Bien, merci beaucoup Vincent Calvé, dont on rappelle les titres de tes ouvrages. Alors le dernier, c'est Vincent Calvé, Ensauvagement, préface de Grégory Rateau aux éditions Raphaël de Surtis, avec une postface sur la quatrième de couverture de Paul Sanda.
On en voit, oui.
Voilà, on en a parlé. Six solitudes à la rumeur libre.
2022.
Il y a également De cendres et d'écume, une ville toujours à la rumeur libre. Et Insectographie avec Cyril Hurel, donc aux éditions Kyrillios. Et dans le pays de ton grand-père, dont tu vas peut-être publier les œuvres.
Voilà, on va rééditer son ouvrage qui s'appelait Alad et qui était paru en 48 aux éditions Artière. On va le rééditer à la rumeur libre.
Très bien. Ça, c'est un très beau travail. Et un travail de, comment dirais-je,
aussi qui intéresse beaucoup la culture occitane.
Oui, oui, hein? Oui. Mais l'idée de le rééditer à la Rumeur Libre, c'est, oui, c'est de le faire connaître un peu plus largement que Millau.
Oui, bien sûr. Voilà. Oui.
Et le dernier, alors Vincent Calvé, avec une illustration de l'auteur.
Oui.
Prière pour ne pas être enterré avec les chiens. Rappel du sorti sans dire un titre, Serge Pèze.
Un livre remarquable et qui est tout à fait étonnant. C'est à peu près 90 pages de autoflagellation, on peut dire. Hein. Très étonnant, mais enfin fascinant.
C'est 2020.
Ouais, oui. 2020. C'est magistral.
Préface de Serge Pèze. Merci, Jean. Oui. Là, c'est le tournant religieux, c'est à partir de ce recueil.
Merci beaucoup, Vincent Calvé.
Merci à toi. Merci, Jean.
Claude et moi, nous souhaitons une excellente semaine de Radio Occitanie. Nous vous disons la semaine prochaine à 10h.